Machine translated by Google.
1. Dr. Ted Hildebrandt, OT History, Lit. ET Theology, Conference 12.
Symbole copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Il s'agit du Dr. Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, Littérature et Théologie de l'Ancien Testament. Cours, conférence numéro 12, Les plaies et le tabernacle dans le livre de l'Exode. Aperçu de l'examen 0003-14. Cours, commençons. Nous avons pas mal de choses à faire aujourd'hui. Jeudi, vous avez. J'ai un examen en cours. Je vous ai envoyé des informations sur les séances de révision et les guides d'études. Donc, tu devrais avoir ça. On dirait que dans le dernier cours, nous allons juste passer par Exodus. Les questions du Lévitique n'y figureront pas. C'est fini, quel que soit le chemin parcouru. Ce sera en grande partie. Choix multiples, probablement environ 80 choix multiples. Il y aura quelques versets à mémoriser. Puis un essai intégratif, où vous devrez rassembler les choses. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez vraiment étudier. L'essai comportera essentiellement trois points au dos d'une feuille de papier. Comment rédiger un essai? Permettez-moi juste de dire que dans ce cours, voici comment tu le fais. Vous avez une introduction, un point 1, 2, 3, une conclusion. Dans le introduction, vous présentez. Ensuite, vous développez vos trois points environ, puis dans votre conclusion, vous concluez avec ce que vous avez conclu. C'est la structure de base de l'essai. Vous le mettrez au dos de votre feuille de réponse. Peter a demandé si le multiple. Les questions à choix seront extraites du quiz en ligne. Non, ce sera de la classe. Les cours et le genre de choses de type guide d'études tirés de vos notes de cours. Il n'y en aura pas. Des autres trucs. Nous l'avons fait lors du quiz, donc ce sera totalement différent. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? D'accord. Commençons par un mot de prière et ensuite nous aurons. Descendez dans le livre de l'Exode et essayez de terminer l'Exode aujourd'hui. Commençons. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions car tu es le grand Rédempteur. Et que tu as racheté ton peuple du pays de l'esclavage. Vous les libérez et tu les as conduits à travers le désert. Nous prions pour que tu nous donnes des cœurs qui suivent. Après vous de préser, ne vous rebellez pas comme les Israélites le faisaient si souvent lorsque vous les bénissiez avec la manne, quand tu les bénis avec de l'eau, quand tu les bénis avec de la viande à manger. Nous prions pour que tu nous aides à réaliser ta bonté et ta grâce envers nous et d'eux. Machine translated by Google. 2. Des cœurs reconnaissants pour vous louer, vous suivre et obéir à votre parole. Nous prions. Tu pourrais nous aider alors que nous abordons certaines choses difficiles aujourd'hui dans ta parole. Donne-nous compréhension en eux. Nous te remercions surtout pour Jésus qui est notre agneau pascal. Dans. Nous prions pour son précieux nom, Amen. Nom, Yahvé et El Shaddai 3, 1, 5, 4, 49. Très bien, commençons ici. La dernière fois, nous avons posé une question à la fin du cours. Et nous n'avons pas répondu à la question. Il s'agit d'Exode 6, 3, où il est dit, « J'ai sanglé Abraham, à Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant. » Le mot Dieu Tout-Puissant, Dieu, est. Ça va être quoi de l'hébreu, savez-vous ce que c'est? Yahvé sera. Traduit Seigneur, ce sera Yahvé barre oblique Jéhovah. Quand il est dit, Dieu, c'est généralement Elou. Elohim. Alors, Dieu Tout-Puissant, est El Shaddai. Alors El Shaddai dit, Abraham. Isaac et Jacob me connaissaient sous le nom d'El Shaddai. Mais il est dit, mais par mon nom Yahweh, je n'ai pas. Me faire connaître à eux. Ils ne connaissaient donc pas le nom de Yahweh. Cependant, lorsque vous regardez Genèse chapitre 49, verset 18, vous avez Jacob. bénissant ses enfants et il dit, j'attends ta délivrance, ô Éternel, ou, ô Yahvé. Ainsi Jacob connaît le nom de Yahvé et il bénit ses enfants au nom de Yahvé. Pourtant, l'Exode dit qu'Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas ce nom. Donc, il semble y avoir cette tension, cette contradiction, entre ce que dit Exode, que les patriarches ne connaissaient pas le nom de Yahvé, et la Genèse, qui dit non, lui le savait. GD, théorie critique des sources 4, 5, 0 à 0, 27. Maintenant, les critiques s'en rendent compte et disent, voyez, ce que vous avez dans la Bible est différentes sources et ces différents documents sources se contredisaient. Quand l'éditeur a rassemblé ces documents sources, il n'a pas lissé le texte pour s'en occuper. Cette contradiction. C'est donc ce qu'on appelle la manière critique d'envisager la situation. Texte et je veux juste le mettre en ligne. Alors ils ont suggéré que Moïse n'avait rien écrit de ce matériau. La première chose qu'ils supposent, c'est que Moïse n'a rien écrit de tout cela et à propos de cela. En 850 avant J.C., il y avait un écrivain qui privilégiait le nom de Jéhovah. On appelle cet écrivain qui favorisait le nom de Jéhovah, la source, J. C'est donc l'écrivain J et il privilégie le nom. Machine translated by Google. 3. Jéhovah quand il écrit. Il l'écrit vers 850 avant J.C. Quelles sont les deux dates dont vous avez besoin? Ce cours jusqu'à présent. Abraham est 2000 et qui est le 1000? David. Donc si je dis 850 avant J.C. Vous, et ce après l'époque de David d'environ 150 ans. Et ce que cela aurait pu être alors? Écrit par Moïse? Non. Moïse est il 400 ans avant David. Donc ça veut dire que ça fait 150 ans. Après David, que ce j'écrivain est en train d'écrire une partie de ce Pentateuque. Il privilégie le nom Jéhovah. Maintenant, 100 ans après la source, J, il y avait une source, E, et il privilégie la nom Elohim. Quel est le nom Elohim, comment est-il traduit dans votre Bible? C'est traduit par Dieu, et elle ou Elohim peuvent tous deux être traduits par Dieu. Jéhovah, comment ont-ils traduire Jéhovah dans vos Bibles? Seigneur. C'est le nom de Yahvé ou Jéhovah lorsque vous ayez dans vos Bibles en majuscule, Seigneur, cela signifie que c'est le nom Yahweh. Fait. C'est logique. Donc Jéhovah et Elohim, ce sont deux écrivains qui écrivent. Ce qui se produit est. Quelqu'un arrive et prend ce document J et le document E et les met ensemble. Mais en faisant cela, ils ne virent pas que ces deux versets se contredisaient. Autre et c'est donc ce qu'il appelle une couture entre ces documents. Ils ont mis ces deux documents ensemble et il y a une couture ici où il y a une erreur, une contradiction entre les deux documents rassemblés. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez un autre document et c'est le Deutéronome. Il écrit le livre du Deutéronome. Le Deutéronome s'écrit dans cette théorie critique. Vers 620 avant J.C., époque à laquelle le roi Josias trouve le livre de la loi. Les critiques diront qu'il ne l'a pas vraiment trouvé, mais qu'il l'avait écrit ou a été écrit juste avant qu'il ne le trouve. Est devenu roi. Le Deutéronome est donc responsable de la rédaction du livre du Deutéronome. Puis enfin le Péorité. Le Péécrivain est un écrivain sacerdotal. Souvent, ce serait être associé à Ezra, le prêtre après l'exil, environ 500 avant J.C. Quand tu regardes le Pentateuque, y a-t-il beaucoup de choses sacerdotales dans le Pentateuque? Les trucs sacerdotaux seraient le livre du Lévitique, comment faire des sacrifices, comment faire des fêtes et des choses détaillées comme ça. L'écrivain sacerdotal a donc mis tous ces détails sacerdotaux. Puis le Pentateuque fut compilé vers 450 avant J.C. à partir de ces quatre documents. C'est ce qu'on appelle la théorie GD. Voyez-vous pourquoi on l'appelle la théorie GD? Et ceci. Machine translated by Google. 4. étaient des documents qui, selon les critiques, avaient été écrits, puis compilés sous le nom de Moïse. Par conséquent, ce que nous avons dans la Bible n'a pas vraiment été écrit par Moïse. Maintenant, question, est-ce ce que dit la Bible ou s'agit-il uniquement de conjectures théoriques qui ils se sont inventées? Oui, c'est une conjecture théorique qu'ils ont inventée. Ont-ils déjà trouvé un document de J ou un document de E ou un document de D? Ont-ils déjà trouvé un document ou une preuve concrète pour étayer cela? 0. Tout cela est donc totalement théorique. Il a été inventé au 19e siècle par un homme nommé Julius Wellhausen et a été adopté au 20e siècle. Si vous étiez assis dans un contexte universitaire, il supposerait ceci. Théorie. Il passerait probablement à autre chose, mais cela serait considéré comme soulignant une grande partie du travail effectué dans les universités. Il s'agit essentiellement d'une théorie critique enseignée partout. Au fait, est-ce que cela contredit ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit-elle que Moïse a réellement écrit cela? Oui. La Bible dit que Moïse a écrit cela. Nous vous avons donné des références selon lesquelles Moïse a écrit la Genèse. Maintenant, Moïse écrit-il tout le livre du Deutéronome? Non, parce qu'il est mort à la fin du livre, donc il ne peut pas écrire ça. Mais qui suit Moïse? Josué. Donc, Josué remplit-il le reste de la vie de Moïse? Ce n'est pas une chose très difficile à suggérer puisque ils travaillaient ensemble tout le temps. C'est donc la théorie du GD. Maintenant, vous dites, d'accord, Hildebrandt, comment avez-vous résolu le problème? Comment se fait-il que on dit qu'Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas le nom Yahweh? Ce que je suis. Ce qui suggère ici, c'est que cette théorie, soit dit en passant, est simple et que lorsque vous avancez ici, c'est plus complexe. Ces sources GD passent donc du simple au complexe. Quelle autre théorie? Passer du simple au complexe. Il est construit sur un modèle évolutif. Ceci fondamentalement joue aussi avec le darwinisme. Vous savez qu'il y a des avantages et des inconvénients de l'évolution cadre, mais ils l'ont en quelque sorte intégré dans la théorie source. Une solution proposée à Exode 6:3-10, 2:8-1-2, 25. Voici maintenant comment je vois cela en ce qui concerne une solution. Il est dit, Abraham, Isaac et Joseph ne me connaissaient pas sous le nom de Yahvé. Maintenant tu dis, attends une minute, Abraham. Je ne connaissais pas le nom de Jéhovah. Attends une minute, Hildebrandt, retourne à Ebla, c'est 400. Machine translated by Google. 5. Des années avant Abraham, à Ebla, il est fait mention du nom, Yahweh. Apparemment le nom, Jéhovah, était connu 400 ans avant qu'Abraham ne vive. Alors, est-ce qu'il dit qu'il ne connaît pas le nom ou ne connaît pas la signification du nom? Ce que je suis. Ce qui vous suggère, c'est que Dieu dit ceci, il me connaissait sous le nom d'El Shaddai, je suis venu vers eux. Et j'ai promis à Abraham, et j'ai promis à Isaac, et j'ai promis à Jacob, j'étais le grand. Promesse dans le livre de la Genèse, j'ai promis toutes ces choses. Toi Moïse tu vas. Connaissez-moi comme Yahweh, car maintenant je vais vous montrer que je suis le gardien de l'Alliance. Vous allez me voir tenir ma promesse. Abraham, Isaac et Jacob me connaissaient comme le faiseur de promesses. Toi, Moïse, tu vas connaître mon nom Yahvé que je suis le Dieu qui tient mes promesses. Et tu vas me voir tenir mes promesses envers Israël. Je vais, pour libérer Israël du pays d'Égypte, je vais les amener dans la terre promisée. Donne-leur le pays que j'ai promis à leur père Abraham. Donc ce qui est dit ici, c'est non pas qu'ils ne connaissaient pas le nom, ils connaissaient le nom, mais ils ne connaissaient pas le signification du nom. Ils avaient vu Dieu faire toutes ses promesses, mais ils n'avaient jamais j'ai vu Dieu accomplir toutes ses promesses. Maintenant, dans l'Exode, Jéhovah / Yahweh annonce à Moïse, tu vas me voir maintenant accomplir ma promesse. Je vais les faire sortir et amène-les dans la terre promise. Alors, voyez-vous la différence? Ils ne l'ont pas fait. Connaissez la signification du nom, ils savaient comment prononcer le nom. Maintenant Moïse va pouvoir voir la promesse se réaliser. Passage sanglant époux 12, 2 6 1 6, 43. Maintenant, que se passe-t-il avec Séphora? À la fin du chapitre 4, Moïse s'en va. Dieu dit, Moïse retourne en Égypte et délivre mon peuple, tire-le de là. Donc, Moïse revient et sur le chemin du retour, il rencontre quelque chose. Le chapitre 4.24 FF dit ceci. Sur le chemin, dans un hôtel, le Seigneur rencontra Moïse et était sur le point de le tuer. Maintenant, qui est, lui, qui était sur le point d'être tué? Était-ce Moïse ou était-ce le Fils? L'actuel? L'hébreu y est quelque peu ambigu. Il est dit lui mais tu ne sais pas qui est lui. Est-ce l'enfant ou est-ce Moïse? Donc, il était sur le point de le tuer, mais Séphora, c'est le. La dame aux oiseaux, la femme de Moïse, a pris un couteau en silex, a coupé le prépuce de son fils et a touché les pieds de Moïse avec. Tu es sûrement pour moi l'époux de sang. Alors le Seigneur le laissa. Machine translated by Google. 6. Seul. Que se passe-t-il ici? C'est intéressant, elle lui coupe le prépuce fils et elle touche les pieds de Moïse avec. Maintenant, je devrais être un peu honnête avec ce que signifie le mot, pied. Savez-vous? Que est-ce qu'un euphémisme? Un euphémisme, c'est quand on veut dire quelque chose qui n'est pas approprié, alors vous faites un euphémisme et vous dites autre chose. Alors quand quelqu'un meurt, dites-vous, il est mort, ou dites-vous, il est décédé, ou, il est allé rejoindre le Seigneur. S'ils disent, ils sont allés auprès du Seigneur, vous dites, oh bien. S'ils te l'ont dit, il est mort, ce n'est pas si bon. Ainsi voyez-vous des euphémismes avec la mort et avec les mauvaises choses. Le mot, pied, en hébreu peut aussi désigner les organes génitaux masculins. Maintenant, je ne veux pas que tu le fasses. Parcourez la Bible et dites, Hildebrandt dit que le mot, pied, signifie toujours, mal. Organes génitaux. Ainsi, chaque fois que vous voyez, Jésus a lavé les pieds des disciples, vous dites. Sainte vache. Est-ce que tu comprends? Je dois m'arrêter là, je suis désolé. Je ne devrais pas. J'ai utilisé cela comme exemple. Il dit qu'il enlève leurs sandales, est-ce vraiment clair? Que les sandales sont à tes pieds. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y en a environ deux ou trois passages dans les Écritures où il utilise ce mot, pied, pour désigner probablement quelque chose. Autre. Est-ce que quelqu'un se souvient du livre de Ruth? Ruth entre avec Boaz et elle découvre ses pieds. Vous devez également poser d'autres questions. C'est l'un des ces passages. Est-ce que cela a à voir avec la circoncision? Alors les gens suggèrent qu'elle circoncit son fils, prend son prépuce et touche les pieds de Moïse. Voyez-vous le symbolisme du fils au père? Mais tout ce que je dis c'est que ça n'arrive pas. Très souvent, cela se produit très rarement dans les Écritures, mais cela se produit. J'essaie d'être honnête avec vous les gars. Alors tout d'abord, qui Dieu a-t-il attaqué? Dieu a-t-il attaqué Moïse ou le Fils? Attaqué? Ce texte est quelque peu ambigu. Pourquoi Dieu l'a-t-il attaqué, quel qu'il soit? Ensuite, la troisième question se pose ici, existe-t-il des histoires similaires dans les Écritures? Fait. Quelqu'un se souvient de l'histoire de Balaam. Et Dieu dit à Balaam, d'accord, tu peux y aller. Rappelez-vous, il va partir, Balak dit, Balaam, je te paierai de l'argent pour descendre et maudit Israël pour moi. Au début, Dieu dit, ne pars pas avec lui, le gars va t'avoir. Machine translated by Google.
7. Maudis Israel. Eligar's Reviant et de, he, J-E-T-E donner I-C-E-K 2 vers I-2.
Descendez et servez-moi. Alors Dieu dit, d'accord, Balaam, tu peux y aller. Alors Balaam s'en va. Et que se passe-t-il? Un ange avec une épée arrive et est sur le point de tuer Balaam en chemin. Vers le bas. Alors vous dites attendez une minute, Dieu lui dit de partir mais cet ange est là, en face de lui. Vous avez donc l'idée que Dieu dit à quelqu'un de partir, mais il y a ensuite cette opposition. Par le. D'ailleurs, est-ce une chose similaire que vous avez vue avec Jacob? Jacob est appelé à revenir en Israël. Quand il revient en Israël, cet ange du Seigneur le rencontre et lutte avec lui. Et met sa hanche en avant. Tu récupères ça, reviens et va dans un pays que je te montrerai et ensuite. Vous recevez cette opposition de Dieu. Il semble que ce soit un modèle de type similaire ici et il y a différentes manières de voir les choses. Trois approches du passage de l'époux sanglant 16, 4 4 2 3, 57. Je souhaite proposer trois pistes construites à partir de trois personnes qui ont fait des suggestions. Ici le premier est un gars nommé Brevard Childs, il était à l'université de Yale et je suppose. Il est à la retraite maintenant. Il était vieux il y a de nombreuses années. C'est un grand spécialiste de l'Ancien Testament. Université de Yale. Il dit que le garçon était malade et que c'est Dieu qui a frappé le garçon. Le, lui, là-bas n'est pas Moïse, c'est le garçon. Le garçon était malade et puis le garçon était circoncis et le garçon s'est amélioré. C'est ce qu'on appelle une histoire étiologique. Faire. Différentes cultures ont des histoires différentes expliquant pourquoi elles font les choses d'une certaine manière. Différentes cultures auront des histoires différentes. Par exemple, si quelqu'un éternue en classe, tu dis quoi? Sois béni. Y a-t-il des histoires pour expliquer pourquoi vous dites, à vos souhaits? Différentes cultures ont des choses différentes. Dans la culture du Massachusetts, j'ai appris que je me suis fait cogner à l'arrière de ma voiture trois fois quand je suis arrivé ici. Trois fois quelqu'un m'a embouti par l'arrière. Je m'arrêtais à un stop, et paf, j'ai été heurté par derrière. Je m'arrête à un autre signe et bam, je suis touché à l'arrière. Au bout d'un moment, j'ai appris quoi? Est-ce que les gens dans le Massachusetts déploient ces panneaux d'arrêt? Oui, ils le font. J'ai détruit l'arrière de ma voiture. Parce que je n'ai pas roulé le panneau d'arrêt, alors ils m'ont juste percuté le dos. Donc, question, ai-je eu un indice au bout d'un moment? Je ne suis pas de cette région, alors maintenant je fais quoi? Parle. D'une manière ou d'une autre, je ne dis pas que vous, les étudiants, devriez faire ça. La police adore choisir. Les étudiants, alors quand vous arrivez à un panneau d'arrêt, arrêtez-vous. Tout ce que je te dis c'est que Machine Translated by Google. 8. Les gens roulent des panneaux d'arrêt ici. Maintenant, pourquoi les gens roulent-ils là-bas au panneau d'arrêt dans le Massachusetts? Quelqu'un m'a raconté cette histoire étiologique expliquant pourquoi ils les roulent. Parce que dans la neige de l'hiver, est un problème ici. Si vous vous arrêtez en hiver, que arrive-t-il à votre voiture? Ça reste coincé. Donc, vous roulez vos panneaux d'arrêt, puis ils le font toute l'année. Voyez-vous comment ça? C'était comme un conte qu'il racontait pour expliquer un phénomène. La suggestion est donc ici, l'histoire nous raconte pourquoi Moïse fait cela. Circoncision. C'est donc une histoire étiologique de dire que c'est pour cela que nous pratiquons la circoncision. Dieu a presque tué le fils de Moïse, il a été circoncis, il a été épargné, et c'est pourquoi les Juifs le font. Circoncision. Une telle histoire s'appelle une histoire étiologique. Maintenant, une deuxième vue est réalisée par Walter Kaiser. Walter Kaiser était le président de Gordon Conwell Seminary pendant un certain temps. C'est un grand érudit de l'Ancien Testament et un évangélique aussi. Il dit que Moïse était celui qui était malade. quand Dieu le frappa. C'était Moïse et le garçon était circoncis. Le point de l'histoire est l'obéissance. Moïse n'avait pas circoncis son propre fils et c'est pourquoi Dieu appelle Moïse pour lui dire, « Si tu es pour diriger mon peuple, tu dois m'être obéissant. Le leader doit être obéissant. Comme modèle pour les gens qui sont sous ses ordres. » Alors il dit, « Moïse, tu dois être obéir à moi et à votre propre fils n'est pas ainsi. » Voici une deuxième raison pour laquelle j'appuie en quelque sorte la suggestion de Kaiser. Quelques les gens suggèrent ceci, que le fils de Moïse devait être circoncis parce que vous vous souvenez. Pâques. À Pâques, qui meurt. Le fils premier-né. Si son fils n'a pas été circoncis, peut-il son fils reste et mange la Pâque. Ou est-ce que son fils doit sortir avec le du sang dessus parce que le fils n'est pas circoncis. Si le fils est devant la porte, que arrive-t-il à ce fils? Il est mort. Donc ce que Dieu dit, c'est, Moïse, il va venir. Une situation plus tard, circoncisez votre enfant pour qu'il puisse manger la Pâque avec vous et qu'il ne soit pas expulsé. Cela pourrait donc être comme une prémonition qu'il s'occupe de ce problème. Par d'ailleurs, cet argument est conjectural. Le texte biblique dit-il cela? Non, c'est conjectural. Pour ma part, je pense simplement qu'il pourrait y avoir une part de vérité là-dedans. Voici donc Walter Kaiser, insistant sur l'obéissance. Alors pourquoi Séphora est-elle si énervée? Zipporah est en fait très en colère. Machine translated by Google. 9. Et il s'avère qu'Allen Ross dit que Moïse a été frappé et que le garçon a été tué. Circoncis. Ce que j'aime dans l'argument sanglant de Ross sur l'époux, c'est qu'il explique pourquoi Séphora était tellement en colère. Ce qu'Allen Ross suggère, c'est que Séphora était habituée à circoncision des adolescents. Dans certaines cultures, il circoncit les adolescents. Quel est le un problème avec le fait d'être un mec? Eh bien, il y a plusieurs problèmes, mais l'un des problèmes avec être un homme, quand une fille atteint un certain âge, son corps la signale il à la femme. Changement. Et il se passe définitivement des choses dans son corps. Dans beaucoup de cultures, les garçons, la transition vers les hommes est un problème. Certaines cultures utilisent des choses comme la bar mitzvah pour indiquer quand un garçon devient un homme. Cela semble être une très bonne question. Quand est-ce que le garçon est un homme? C'est ce qui me faisait peur, certaines femmes disent, jamais. Il y a une partie du garçon qui reste avec nous tous, du moins avec ce garçon, et je suis un vieil homme maintenant. Donc, parce que la culture a ce problème, surtout avec les hommes en transition vers à l'âge adulte, certaines cultures utiliseront la circoncision des adolescents comme une sorte de passerelle ou rite de passage. Une fois que le garçon a été circoncis, il est désormais accueilli chez les adultes. Communauté. Séphora est donc habituée à la circoncision des adolescentes et elle n'y était pas habituée. Circoncision néonatale. Nouveau-né signifie circoncision du bébé. Alors quand elle doit circoncire une enfant qui n'est pas prête à devenir adulte, elle est vraiment très en colère contre Moïse. C'est dégoûtant de circoncire un bébé de son point de vue. Qui ferait ça à un bébé innocent? Ce que je vous dis, c'est que c'est le meilleur moment de la vie pour le faire. Mais de toute façon, alors elle obtient. Au fait, dans le récit, Zipporah, la dame aux oiseaux, est-elle vraiment bouleversée? Est-ce qu'elle vole loin? Et elle partit quand Moïse est en Égypte. Où se trouve Séphora? Elle n'est nulle part où être trouvée. Myriam est là. Aaron est là, et les gens sont là. Séphora, beaucoup. Les gens pensent, et je serai d'accord avec ça, semble être retournée chez son père Jéthro, prêtre de Madian au Sinaï. Alors elle retourne en fait et laisse Moïse comme résultat de ceci. Elle s'énerve et s'en va. Donc elle n'apparaît pas dans le texte, elle est partie après ce. J'aime cette interprétation car elle explique la colère de Zipporah et pourquoi elle a pu. Gauche. Encore une fois, c'est quelque peu conjectural, mais je pense que cela donne du sens à de nombreux détails. Machine translated by Google. 10. Date de l'Exode 23, 5, 8, 2, 4, 28. Maintenant, quand Moïse a et il traversait la mer Rouge, ou la mer des roseaux. La date de l'Exode. Est l'un des sujets les plus controversés du livre de l'Exode. Quand nous traversons ça. Dans un cours de niveau collégial, sachez qu'il y a un énorme débat sur le début. Date et la date tardive de l'Exode. Je vais passer en revue les arguments et ensuite. Nous allons en faire une analyse. Il va donc y avoir ce grand débat sur la question de savoir quand est-ce que Moïse quitte l'Égypte. Date précoce, 1445 avant J.C. 24, 2930-13. Tout d'abord, je veux vous donner la première date. La date à laquelle la plupart des gens sortent. Vers 1445 avant J.C. 1440 est appelée la théorie des premières dates. Où on élu la première date. Depuis, il le tire de la Bible dans 1 Roi 6, 1, il est dit ceci, et vous devriez pouvoir le comprenez ceci, 480 ans avant la quatrième année de Salomon, Moïse sortit d'Égypte. Maintenant, vous ne connaissez pas la date de Salomon, mais à qui connaissez-vous la date? David est un 1000 avant J.C. Salomon est-il avant ou après David? Salomon était le fils de David, donc quand c'est son fils, ils viennent généralement après. Nous avons donc les 1000 de David, maintenant nous en sommes aux 960. Si vous prenez le 480 et que vous l'ajoutez au 965, vous obtenez cette date de 1445 avant J.C. Faire. Tu vois où il trouve ça. David est 1000 avant J.C. et Salomon juste après, environ 30 ans avant J.C. ou 40 ans après cela, et vous prenez les 480 ans avant la quatrième année de Salomon, alors cela vous ramène à environ 1445 avant J.C. Les Écritures nous parlent donc de cette période de 480 ans, mais pas seulement dans Rois. Dans le livre de Juges 11, 26, Jephthé est un juge. Rappelez-vous comment nous avons dit que c'était Jordan ici, le mer de Galilée, fleuve Jourdain, mer morte. Vous êtes Israël et vous êtes le mer Méditerranée. Jephthé est ici en train de combattre les Ammonites et il dit les Ammonites, ma famille est propriétaire de cette propriété depuis 300 ans. Maintenant, est-ce que ça dit? Tu as quelque chose? Il dit, ma famille est propriétaire de ce territoire depuis 300 ans. Quand est-ce que ce territoire est-il acquis? Sous Moïse. Quand vivra Jephthé? Jephthé est sur le point. 1100 avant J.C., donc si Jephthé dit que ma famille possède cela depuis 300 ans, et que c'est 1100 avant J.C., ça te ramène à quelle date? 300 plus 1100 vous ramène au 1400. Alors ces deux versets bibliques semblent alors soutenir cette date précoce et c'est donc une bonne chose. Machine translated by Google. 11. Il y a maintenant la stèle de Mère Nepta. Tout d'abord, que est-ce qu'une stèle? Que est-ce qu'une pierre tombale? Ressembler. Une pierre tombale est une roche généralement d'environ 6 pouces d'épaisseur, avec des coins arrondis. À propos de ce niveau, une stèle ressemble à une pierre tombale, sauf qu'elle mesure environ 6 pieds de haut. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont faits de roches. Ce que nous avons vu mesurer environ 6 pieds de haut et 4 pouces d'épaisseur. Ils étaient faits de roches. Ils sculptent des trucs dans la roche. Je suis le grand pharaon d'Égypte et tout le monde se prosterne et me baise les pieds. Alors ils ont gravé sur le devant cette stèle, au dos de celle-ci, parfois sur les côtés. Et ce sont appelés stèles. Vous apprenez à lire ces stèles et elles vous racontent l'histoire. sur la stèle. De Merneptah, il est dit, et nous savons que la date de Merneptah est d'environ 1200 avant J.C., il est dit. Qu'Israël était dans le pays. Si Israël campe dans le pays à 12 heures, alors ils doivent avoir. Y suis entré avant cette date. Ainsi, la date de 1445 correspond bien à l'installation d'Israël dans le pays de 12 heures, ils sont arrivés à 14 heures et ils ont eu le temps de s'installer. C'est donc la Merneptah. Stèle à l'appui de cette date précoce. Enfin, les lettres d'Amarna. Ces lettres sont des lettres vraiment soignées. Ils sont écrits en acadien. Les lettres d'Amarna, que est-ce que c'est? Ici se trouve Jérusalem. Le Jébusien. Ou le Cananéen qui est le roi de Jérusalem écrit à Pharaon et nous avons en fait copie de ces lettres. Ces lettres datent de 1400 avant J.C. Abi Eba de Jérusalem écrit à le Pharaon égyptien et lui dit, Pharaon, pourquoi ne nous aides-tu pas? J'ai demandé à vous pour de l'aide. Ce groupe appelé Abiru nous envahit et nous domine. Et nous avons besoin de votre aide, Pharaon. Pourquoi tu ne m'aides pas? Je t'ai déjà écrit. Mais tu ne m'aides pas. Ces Abiru arrivent partout. Maintenant quoi? Ça ressemble un peu à ça. Abiru sonne comme hébreu, et dans le passé certain. Les érudits ont fait l'association selon laquelle les Abiru étaient les Hébreux. Ne fais pas ça. C'est faux. Les Abiru sont un groupe beaucoup plus important que les Hébreux. Il y a Abiru. Partout en Mésopotamie, que le groupe des Abiru est très grand, et il est possible que les Hébreux étaient un type ou un sous-ensemble de Abiru. Les Abiru s'étaient représentés comme ressemblant davantage à des gitans qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre et ils arrivaient maintenant comme ces hordes, errant et s'emparant du pays. Le roi de Jérusalem demande de l'aide à Pharaon. Pourquoi Pharaon ne l'aide-t-il pas? Et il est possible que le Pharaon se soit fait enfoncer la queue. Machine translated by Google. 12. L'Exode et il dit que je ne plaisante plus avec ces Juifs. Ces Amarna. Les lettres semblent correspondre à cette date de 1400 avant J.C. C'est pourquoi je tiendrai ce rendez-vous anticipé. Date tardive de l'Exode, 1260 avant J.C. 30, 1439, 58. Maintenant, certains de mes bons amis s'en tiennent à ce qu'on appelle le rendez-vous tardif. Ils ont le privilège de se tromper s'ils le souhaitent. Non, en fait, ils ont peut-être raison et j'ai peut-être tort. C'est une de ces questions dont je ne suis pas sûr. Je pense que j'ai raison, mais je peux voir pourquoi. Ils disent ce qu'ils disent. La date tardive date d'environ 1260 avant J.C. Donc tu as le début. Date environ 1440 avant J.C. et la date tardive c'est à 1260, c'est un gros argument. Le premier est le plus fort de leurs arguments, disent-ils, est Exode 1.11. Il est dit que les Israélites bâtirent deux villes, l'une appelée Pithom et l'autre Ramsès. La ville de Ramsès était probablement construite en l'honneur de qui? Ramsès. Ramsès II, qui est le grand Ramsès, date d'environ 1200 avant J.C. Donc s'ils construisaient une ville, ce serait celle de Ramsès. Au fait, avez-vous les gars? Avez-vous déjà vu le film, Les 10 commandements? Le pharaon dans les 10 commandements avec le crâne chauve, il s'appelait Yal Brynn. Quoi qu'il en soit, il joue Ramsès. Ainsi, dans le film Les 10 commandements, à quelle date ont-ils pris, le regretté? Date ou date anticipée? Ils ont pris la date tardive et ont fait de Ramsès le pharaon. Par comment la Bible nous dit-elle le nom du pharaon? Ce n'est jamais le cas. En fait, ça correspond aux premiers documents antérieurs à 1000 avant J.C., car avant 1000 avant J.C., ils ne nommaient généralement pas le pharaon. Après cette période, il l'appelle Pharaon Nico, Shishak ou autre. Ramsès est ici, Exode 1.11 dit qu'ils ont construit la ville en l'honneur de Ramsès, donc. La date 1200 convient le mieux. Les niveaux de brûlure à Lachish sont un autre argument en faveur de la date tardive de l'Exode. Quoi ? Sont les niveaux de brûlure. Tout d'abord, nous devons faire un peu d'archéologie. Donc tu viens de Gordon. Collège, tu vas travailler à Ashkelon avec les gars de Witton. Vous allez. Va chercher un téléphone. Que est-ce qu'un téléphone? C'est un monticule de villes, des villes superposées au-dessus des villes. C'est comme un gâteau en couche. Au fait, où es-tu? Permettez-moi d'utiliser Jéricho comme exemple. D'abord. Bref, si vous voulez construire une ville dans le monde antique, quelle est la première chose dont vous avez besoin? Il faut avoir de l'eau. Allez-vous construire une ville dans le désert? Non, tu vas le construire par une source ou un puits. Toutes les villes sont près des sources ou des puits parce que vous avez Machine Translated by Google. 13. Il faut avoir de l'eau. Maintenant, une fois que vous avez de l'eau, faisons Jéricho. Jéricho a cet énorme printemps. Votre ville commence au niveau du sol. Vous construisez un mur autour de votre ville, puis où mets-tu tes poubelles? Dans la corbeille et ils le sortent. Ok, maintenant nous sommes. En parlant de 8000 avant JC, où mettez-vous vos déchets? Les gens mettent leurs poubelles un peu comme Massachusetts. Ils jettent simplement les poubelles dans la rue. Alors que se passe-t-il? Ils jettent le des déchets dans la rue, au fait, le sable est-il rejeté dans la ville? Et donc tout d'un coup, la ville a tendance à faire quoi? Des déchets, encore des déchets, des déchets, des déchets, la ville se construit elle. Donc dans le tel de Jéricho, ça a commencé à plat mais le temps que ça soit fini, il est 75 ans. Pieds de haut maintenant. 75 pieds de haut et se superposent des couches de villes d'âge différents. Soyons maintenant archéologues. Vous vous tenez au sommet du monticule de 75 pieds. Quoi? Tu veux faire? Vous voulez le creuser. Donc, ce que vous faites, c'est obtenir un 10x10. Pieds carrés et de quoi avez-vous besoin? Tu as besoin d'esclaves, alors tu vas au Gordon College. Et d'autres collèges et disent, n'aimeriez-vous pas devenir archéologue et vous pouvez vraiment étudiez l'archéologie. Alors vous allez là-bas et ils vous transforment en esclave. Vous finissez. Ils creusent des carrés de 10 pieds sur 10 et ils vous donnent une brosse à dents pour creuser tout ça. Pourquoi faire? Ils veulent que tu utilises une brosse à dents. Ils ne veulent pas que tu casses quoi que ce soit et ils le font. Tout doit être enregistré au fur et à mesure que vous descendez dans les strates que vous devez enregistrer. Chaque petite chose est prendre des photos. Maintenant, vous creusez ce carré de 10 pieds et vous descendez un chemin. Peux-tu dire que la saleté a une certaine couleur? Tout d'un coup, vous arrivez à une certaine couche et la saleté devient tout noir et suie. Donc tu as une couche de suie de 6 pouces là-bas, qu'en penses-tu? Immédiatement. Je pensais qu'en fait, le gars avait un poil à boiser et c'est devenu incontrôlable. Sa maison a été incendiée. Est-il possible que ce type ait incendié sa maison ici? Maintenant? Supposons que nous commencions à creuser là-bas et que lorsque nous arrivons à la même couche, nous touchions cette couche de suie. Au fait, la suie va-t-elle tacher le sol? Cela tachera le sol. Nous descendons à une certaine couche. Et boum, nous avons une autre couche de suie de 6 pouces. Nous avons une couche de suie là-bas et une suie couche ici. Maintenant, à quelle conclusion dois-je arriver? La ville a été incendiée à ce niveau. C'est donc ce qu'on appelle la couche de gravure. Et c'est ce qu'on appelle un téléphone. Un tel est une ville. Monticule, puis les archéologues creusent. D'ailleurs, plus ils creusent, et ce que Machine Translated by Google. 14. Vieillir ou rajeunir. Plus on creuse, plus il vieillit. Ensuite tu essaies de dater les choses. Avec la datation au carbone 14, avec la datation des poteries, avec la datation des restes matériels, vous essayez de dater les choses à chaque niveau au fur et à mesure que vous creusez. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a des couches de brûlures indiquant que la ville de Lechish a été brûlée vers 1200 avant J.C. En fait, on le trouve dans plusieurs villes de Palestine vers 1200 B.C., ce qui signifierait alors que Josué est peut-être venu et a fumé plusieurs villes et les a-t-il brûlées. Donc certaines personnes suggèrent que c'est Josué qui brûle les choses vers 1200 avant J.C., ce qui correspondrait à cette date de 1200 de l'Exode. Voyez-vous comment ça? L'argument va. Au fait, l'archéologie est vraiment une chose merveilleuse, mais est-ce qu'il fait chaud et sec? Et c'est beaucoup de travail. Pourquoi voudriez-vous aller à Ashkelon? Parce qu'il y a une plage juste à côté, sur la mer Méditerranée, à environ 50 mètres. C'est l'endroit où aller. Il vous suffit d'esquiver quelques missiles arabes depuis Gaza, mais à part ça, tout va bien. Maintenant, voici une autre raison. La Bible dit que 480 ans avant Salomon, il est sorti d'Égypte. Comment font-ils pour se débarrasser de ce 480? Ce qu'ils suggèrent, c'est qu'un la génération a 40 ans. 40 ans par génération multiplié par 480. Est-ce que quelqu'un est une majeure en mathématiques ici? Combien de générations de 40 ans faut-il pour en obtenir 480? 12 générations. Maintenant je te demande combien d'années entre toi et tes parents. Et ce habituellement 40 ans. Eh bien, votre génération l'est peut-être, mais certains de vos grands-parents se sont-ils mariés quand ils avaient 18 ans. Ma mère m'a eu quand elle avait 19 ans. Si mes filles est venue vers moi, n'y pensons même pas. Ne me permettez pas d'entrer dans cela. Alors ce que je dis, c'est, est-ce vraiment 40 ans ou est-ce plutôt 20 ans entre les générations? Donc si vous le prenez comme 20 ans, que est-ce que ça fait à ce nombre 480? Cela le coupe en deux. Alors ce qu'il suggère, c'est 12 générations sur 40, c'est la façon dont le schéma a été rendu, mais une génération réelle et de 20 ans, donc c'était en réalité 240 ans et non 480 ans complets. C'est comme ça qu'ils rétrécissent ça. Nombre. Combien d'années Moïse est-il resté dans le désert? 40 ans. Alors c'est 40 ans. La période de temps était peut-être simplement une sorte de mesure standard. Il a marqué cela sur la génération. Ils ont peut-être fait ça. Ces gens suggéraient ce genre de rétrécissement ici. C'est conjectural. Nous ne le faisons pas, mais cela en fait logique car une génération est plus courte. Leur calendrier était en partie décalé, ils l'ont fait lunaire. Machine translated by Google. 15. Des calendriers et différentes choses, mais ce n'était pas si loin. C'est comme dans des centaines d'années. Nous utiliserons ce calendrier lunaire lors de certaines fêtes. Nous pouvons utiliser les différents calendriers, et cela nous aidera certains. Mais quand nous avons 480 ans qui passent à 240, cela ne nous amène pas là. Gardez cet argument, c'est un excellent argument et nous l'utiliserons plus tard. Donc la date anticipée et la date tardive. Est-ce vraiment ennuyeux? Oui, c'est le cas. Tellement bien. Continuez, mais c'est un grand débat dans le livre de l'Exode, sur la question de savoir si c'était 1400 ou 1200 avant J.C. C'est un grand débat et il y a de bonnes personnes des deux côtés. Nombre d'Israélites quittant l'Égypte 39, 5, 9, 5, 2, 0, 3. Voici une autre question. Celui-ci est vraiment délicat. Combien de personnes ont quitté l'Égypte? Ici vous avez des déclarations claires dans Exode 12, 37 et répétées à nouveau dans 38, 26, et dans le livre des nombres, il le répète encore une fois. Rappelez-vous comment les nombres dénombrer les tribus. Donc, au total, 600 000 hommes sont sortis de Égypte. 603 500 hommes dans le livre des nombres, donc 600 000 hommes sortent d'Égypte. Maintenant, quel est le problème avec ça? 600 000 hommes de 20 ans et plus. Est-ce que les hommes ont l'habitude? Tu as des femmes? Nous essayons de déterminer combien de personnes sont sorties d'Égypte, donc si vous obtenez 600 000 hommes sortants, me donneriez-vous que chaque Israélien est une femme? Maintenant, quel est le problème avec ça? Un homme, une femme, nous ferons juste cela. Il y a donc 600 000 hommes et 600 000 femmes. Et au fait, lequel est probablement surpeuplé? L'autre parce que les Égyptiens essayaient de tuer les mâles, donc il y avait probablement plus de femmes, un peu comme au Gordon College. Mais supposons que 600 000 hommes, 600 000 femmes. Me donneriez-vous deux gentils enfants américains pour chaque famille? Maintenant, que est-ce que c'est? Le problème avec deux enfants dans cette culture. Est-il possible dans cette culture pour quelqu'un de... Avez-vous 10 ou 12 enfants? Certains d'entre eux n'en auraient pas, mais voudriez-vous m'en donner deux? Si. Faites cela et additionnez ce nombre 600 000 hommes et femmes et deux enfants chacun. On se retrouve avec 2,4 millions de personnes qui quittent l'Égypte. Est-ce un problème? Est-ce que c'est beaucoup de personnes? L'un d'entre vous a-t-il déjà allé à Boston pour le 4 de juillet? Si jamais tu reçois une chance de faire ça, c'est incroyable. Au fait, quand les feux d'artifice seront terminés? Machine translated by Google. 16. Boston, tout le monde part en même temps. Êtes-vous déjà allé là-bas? Il y a un demi-million de personnes qui tentent de traverser ces rues. Ils viennent de fermer. Les rues descendent et les gens marchent au milieu des rues. Quelle est la population de Boston? Lorsque vous entrez dans cette foule, ce n'est qu'un essaim de personnes. Là, il y a 600 000 personnes à Boston. Quel est le problème? 2,4 millions de personnes, maintenant vous les accompagnez à travers le désert, est-ce que ça va être un problème? Eh bien, permettez-moi juste de souligner certaines de ces choses. Hello. Il y a 2,4 millions de personnes qui ont des problèmes d'eau, elles sont dans la désert du Sinaï. L'eau est un problème. Laisse-moi te parler du désert du Sinaï, j'ai vécu dans le Sinaï. Désert pendant 3 semaines. Aura Lipskitz est une experte du Sinaï qui nous faisait tomber. Aura arrive. Et elle nous dit que lorsque vous arrivez dans le désert, votre corps n'enregistrera pas que vous êtes soif. Donc ce qui va se passer, c'est que votre corps dira que je n'ai pas besoin d'eau, alors vous avez mangé ces crackers. Vous mangez ces crackers parce qu'ils vous mettent l'eau à la bouche et alors tu diras que ma bouche est sèche, j'ai besoin de boire quelque chose. Tu manges le cracker et puis cela dit à votre corps que je dois boire quelque chose. Si tu ne manges pas de cracker, que est-ce que arrive? Votre corps dit qu'il n'a pas soif, alors votre corps se déshydrate à cause du désert. Nous avons eu un mec allemand, je l'appellerai Hans. Alors Hans, un gros dur à cuire allemand. Dit, je boirai quand je serai prêt. Je connais mon corps. Donc nous sommes dans le désert, 3 jours. Plus tard, que arrivera-t-il au pauvre vieux Hans? Il est à l'arrière du bus et roule, gémissant, et il a un énorme mal de tête. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous obtenez déshydraté? Votre cerveau est principalement constitué de quoi? Maintenant, je ne dis pas cela en tant que blague blonde. De quoi est principalement constitué votre cerveau? Y a-t-il une tonne d'eau dans votre cerveau? Alors, lorsque vous êtes déshydraté, que arrive-t-il à votre cerveau? Votre cerveau rétrécit. Maintenant, lorsque votre cerveau rétrécit, il se retire de votre crâne, et que est ce que cela vous fait? Ça fait mal comme la pire migraine que vous n'avez jamais eue de votre vie. Vous ne pouvez pas voir. Il peut en fait affecter votre vision. Ton cerveau rétrécit à cause de ça et avec Hans qui roule à l'arrière, avait-il le pire mal de tête qu'il ait jamais eu de sa vie. Tout le monde savait qu'il ne mangeait pas les crackers, un peu comme si ça lui servait bien. Personne ne dit ça, mais nous y pensions tout. Quoi qu'il en soit, alors Aura revient là-haut et elle dit un mot à Machine Translated by Google.
17. Oui, de crackers. Après cela, Polly mangeait ses crackers. Quand nous avons gravi le mont.
Nous sommes partis du Sinaï à 3h du matin car il faisait froid et nous devions emporter un galon d'eau. Oh. Ce que je dis, c'est qu'il faut au moins un galon d'eau par jour. Quand tu es dans le Sinaï. Avec un galon par jour, quel est le problème? Vous avez 2,4 millions de personnes et un galon d'eau. Arrosé par jour pour chacun d'eux. Quel est le problème avec ça, 2,4 millions de gallons? Tu me dis combien d'eau cela représente? Combien d'entre vous imaginent Moïse se précipitant vers ça? Rocher, prenant son petit bâton, et frappant le rocher et un peu d'eau en sort. Vous avez 2,4 millions de personnes, avez-vous besoin d'un tuyau de 10 pouces pour projeter de l'eau là-bas? 2,4 millions de personnes. Est-ce que ça fait beaucoup d'eau au quotidien? Et la nourriture? Quand j'étais plus jeune, je pensais que la manne tombait comme neige. Vous avez 2,4 millions de personnes. J'ai 4 enfants, combien faut-il pour en nourrir 4 enfants? Je vais vous en dire beaucoup. Je pensais que c'était cette manne qui flottait. Avez-vous? Faut-il avoir des trains entiers de manne pour nourrir 2,4 millions de personnes? Il te faut des tonnes et des tonnes et tonnes de nourriture pour nourrir 2,4 millions de personnes. En voici un autre. Anna a dit qu'il était dispersé, c'est tout à fait vrai. J'ai été au Sinaï. Le Sinaï a ses montagnes de granit. Quel est le problème avec les montagnes de granit? Les montagnes de granit vous couperont les pieds. Il est très difficile de marcher dessus. Tu ne marches pas. Les montagnes, tu marches dans les vallées. Maintenant, si tu marches dans les vallées et que tu as 2,4 millions de personnes, est-ce que ça les disperse? Il est possible que les gens devant de l'eau et il faudrait 3 jours avant que les gens à l'arrière arrivent là-haut. Ce qui se produit dans le désert en 3 jours. Vous êtes cuit. Ce que je dis, c'est qu'ils se dispersent comme cela dans les Oyuids. Les Oyuids sont un autre terme désignant les vallées situées entre les montagnes et les sages-femmes. Vous avez entendu parler des sages-femmes au chapitre 4. Les noms des deux sages-femmes étaient Shifra et Pua. Est-ce que quelqu'un se souvient? Shifra et Pua. Vous avez 2 sages-femmes et 2,4 millions de personnes. Avons-nous? Tu as un problème ici. Je viens de Varsovie, dans l'Indiana. Je te donnerai tout l'hôpital en Varsovie, Indiana. Si vous avez 2,4 millions de personnes, cet hôpital peut-il desservir autant de personnes? Personne? Aucune chance. Qu'en est-il de la prise de Canaan? Israël, ils ont envoyé des espions dans le pays. Machine Translated by Google. 18. Il y a des géants là-haut. Si vous avez 2,4 millions d'habitants, les géants sont-ils un problème? Vous tout faire, c'est encercler la ville et manger toute la nourriture. Les grands géants n'ont rien à manger parce que tu viens de manger toute la nourriture. 2,4 millions de personnes vont ressembler à des sauterelles, les géants le sont. Va mourir de faim. Je m'en fiche de sa taille, plus il est gros, plus il tombe fort. Parce qu'il va avoir besoin de beaucoup de nourriture et qu'il n'y aura rien à manger là-bas. Donc, Ce que je dis, c'est que 2,4 millions de personnes, c'est beaucoup de monde. Maintenant, vous dites, Rille de Brent, que est-ce que tu fais avec ça? Tout ce que je te dis c'est 2,4 millions de personnes, d'ailleurs, si la Bible le dit, est-ce que je le crois? Est-ce que ça règle le problème? Dans mon... Est-ce que je dis, 2,4 millions de personnes, c'est beaucoup de gens dans le désert comme ça? Et puis, la taille, je ne peux tout simplement pas imaginer ça. C'est un problème pour moi. Maintenant, que fais-tu? Quelques. Les gens prennent le mot élève qui est le terme hébreu signifiant mille. Ils prennent la parole mille en hébreu et ils disent que le mot élève peut être traduit par mille, mais il peut être également traduit par clan ou famille. Et donc ce serait 600 clans ou familles. Ils calculent la taille du clan et de la famille, et cela représenterait environ 72 000 personnes. Parle. D'ailleurs, 72 000 personnes, est-ce encore un groupe assez important à emmener à travers le désert? C'est quand même joli. Grand, mais cela le limite. Donc certaines personnes utilisent cet éléphant et le prennent en tant que clan pour l'obtenir. Vers le bas. Cela ne le fait toujours pas, cette solution ne m'a jamais vraiment satisfait. Le mot éléphant est le mot pour mille, donc 600 000 ou 600 clans. Le mot serait donc 600 clans. Et nous en avons 50 par clan ou quelque chose comme ça. Cela limiterait donc la taille. C'est l'un des problèmes des Écritures, pour être honnête avec vous, je ne connais pas le solution à cela. Je devrais probablement sauter ça, mais je veux que vous voyiez en partie ce qu'il faut faire. Que faites-vous lorsque vous rencontrez un problème dans les Écritures que vous ne savez pas comment résoudre? Est-ce? Il est possible qu'il ait utilisé un système de base différent de celui que nous utilisons. Nous utilisons un système de base 10. Et? C'est possible comme à Babylone où ils ont un système de 60 bases, donc ils ont compté. Différemment? C'est possible. Ce que je dis, c'est qu'avec ce problème, je ne sais pas quoi. La solution est. Certaines personnes pensent que ce chiffre est une hyperbole, c'est une exagération pour accent. Encore une fois, cela me frappe. La Bible utilise tout le temps l'hyperbole, mais c'est généralement avec des déclarations, tout, ou quelque chose qui est généralement assez clair. Les chiffres qui projetaient cela, je ne sais pas s'il y a des preuves de cela. C'est donc celui avec lequel je suis coincé. Machine translated by Google. 19. En d'autres termes, ce que j'essaie de dire c'est, y a-t-il des choses dans la Bible qui doivent encore être résolues? C'est l'un de ces gros problèmes et je ne sais pas comment le résoudre exactement. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai lutté avec, j'ai lu des choses à ce sujet et je ne sais toujours pas. Je suppose que la façon dont ils numérotent les choses est différente de la façon dont nous le faisons. Et nous comprenons leurs chiffres différemment de ce qu'ils voulaient dire. De sorte que la façon dont ils numérotaient les choses et conceptualisaient est différente de la façon dont nous le comprendre. Je pense que nos deux cultures se sont manquées sur cette numérotation. Chose. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas. J'aurais aimé le faire, j'ai lu un. Beaucoup d'érudits et je pense que personne ne le sait vraiment. Il y a eu beaucoup de suggestions, mais les suggestions s'effondrent toutes. C'est celui que nous ne connaissons pas. Y avait-il? Beaucoup de gens sont sortis d'Égypte. Beaucoup de gens sont venus d'Égypte. Utilisons les mots, beaucoup. C'est l'un de ces problèmes. Comment gérez-vous des conflits comme ça? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des conflits dans les Écritures qui vous ramènent et vous vous demandez simplement comment résoudre ce problème. Je pense qu'il nous en manque juste quelques-uns. Des données sur la façon dont il voulait que ces choses soient comprises. Je pense qu'il manque entre les deux cultures en termes de chiffres. Plaie d'Égypte, 3 raisons pour les plaies 52, 0455, 56. Maintenant, les cycles de la peste, que avons-nous avec les cycles de la peste? Il y en a au moins 3. Raison des 10 plaies d'Égypte. La première raison était qu'il s'agissait d'un jugement sur le Dieu d'Égypte. Dans Exode 12.12, il est dit qu'il amène ses fléaux sur le même. Nuit, je traverserai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, hommes et animaux. Et je ferai juger leur Dieu. Qui est l'un des principaux dieux de l'Égypte. Il dit. Je vais prendre leur premier-né, Pharaon lui-même était considéré comme un dieu. Dieu dit que je suis. Va prendre son premier-né. Il ne pourra pas protéger son propre enfant. Ils l'ont momifié et ils l'ont essentiellement envoyé dans l'au-delà. La façon dont ils conceptualisaient leur dieu, certains de leurs dieux ont été coupés en deux et ils ont eu des batailles entre les dieux et un dieu tuerait un autre dieu. Leur dieu était donc très humain. Comme voici la deuxième raison, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Dieu a dit dans Machine Translated by Google. 20. Les fléaux, il va révéler qui il est. Ainsi, dans les fléaux, vous verrez le révélation du caractère, de la puissance, de la force et de la puissance de Dieu. Cela va arriver ici, afin qu'il sache que je suis Yahweh. Les fléaux vont révéler son personnage. Troisièmement, il semble y avoir une sorte de loi du talion. Maintenant, que est-ce que l'ex talion? Lex signifie, loi, talioni signifie, représailles, la loi des représailles. Si je disais à œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Ce que vous avez ici, je pense. Exode 4.23 et que Dieu dit, qu'a fait Pharaon au premier-né de Dieu? Pharaon a essayé de détruire le premier-né de Dieu en tuant les enfants, en travaillant. Les faire sortir de la lumière du jour, en les asservissant. Ce qui va arriver, c'est que Dieu dit. Par conséquent, parce que tu cherchais à détruire mon premier-né, je vais prendre ton premier-né. Toi, Pharaon, en tant que Dieu, tu n'es pas capable de protéger ton propre enfant. Tu détruis mon enfant. Votre enfant est parti. Il y a donc ce genre de choses, œil pour œil, dent pour dent. Et la loi du talion. Question d'un étudiant. Oui, c'est le Nouveau Testament et nous allons laisser des trucs pour le Nouveau Testament. Ce que je suggère, c'est qu'il faut être très prudent. De reprendre certaines déclarations du sermon sur la montagne, par exemple, et en essayant de les universaliser. Je sais que les gens font ça, ils essaient de recueillir les déclarations des sermons sur la montagne et les universaliser. Tout ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a différentes façons dont Dieu lui-même fait les choses. Dieu favorise-t-il le shalom et la paix? Oui, mais existe-t-il d'autres fois où Dieu est en guerre? Vous ne pouvez donc pas prendre une seule déclaration et l'universaliser. Comme ça. J'ai peur que les gens fassent ça, faisant de Jésus cette mauviette en tendant l'autre joue. Une personne. Je pense que si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il n'est pas trop mauviette. Donc tu as faire attention à ça, mais c'est vraiment bien que vous ressentiez la tension, parce que nous voulons ressentir la tension et lutter avec elle. Endurcissement des cœurs 55, 5, 7, 5, 7, 54. Maintenant, Dieu endurcit-il le cœur des gens? Ici vous avez quelques déclarations, qui endurcit le cœur de Pharaon. Ici, vous avez une déclaration selon laquelle Dieu l'a durci au chapitre 4.21 là où nous venions d'être. Il dit, Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de faire des miracles, mais j'endurcirai son cœur le cœur de Pharaon afin qu'il ne laisse pas partir le peuple. Il sera Machine Translated by Google. 21. Endurcis le cœur de Pharaon, mais tu sais ce qui est intéressant. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais il y a aussi un tas de passages qui disent que Pharaon a endurci son propre cœur. Donc, Donc à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? En d'autres termes, Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Oui. Mais Pharaon a également endurci son cœur. Alors la réponse est quoi? Oui. En d'autres termes, Dieu est-il impliqué dans les activités et l'humanité est-elle également impliquée dans activité? Cela nous ramène au libre arbitre et à la prédestination. Est-ce que Dieu détermine les choses? Oui. L'humanité détermine-t-elle les choses? Oui. Est-il possible que vous peut-on avoir deux agences travaillant sur le même événement? Du point de vue de Dieu, Dieu s'endurcit. Le cœur de Pharaon juge Pharaon à cause des maux qu'il a commis, et Dieu endurcit son cœur comme un jugement contre lui. Est-il possible que Pharaon endurcisse son cœur? Rébellion contre Dieu. Donc, vous avez le même événement qui se produit pour deux. Raisonne avec Dieu qui veut dire une chose par là et Pharaon qui veut dire une autre chose par là. C'est le même événement. Alors, qui a endurci le cœur de Pharaon? Dieu l'a endurci et Pharaon l'a durci. Plaie sur l'Égypte 57, 5, 5, 6, 1, 13. Or, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Je ne veux pas que tu saches tout ça. J'aimerais que vous en appreniez 4. Ceux qui sont en jaune sont ceux que je te veux apprendre. Or, le premier fléau est celui du serpent. Vous souvenez-vous du casting de Moïse? Descend sa verge et il devient un serpent. Les magiciens jetèrent leurs bâtons et ils sont devenus des serpents. Alors que se passe-t-il? Le serpent de Moïse fait quoi? Cela les ronge. Parle. D'ailleurs, le serpent est-il le symbole de la puissance égyptienne? Qui a-t-il sur la couronne de Pharaon? Il a que ce qui sort devant. Un cobra. Le serpent est donc un symbole de la puissance égyptienne. Que fait le serpent de Moïse? Le mange et le détruit. Le serpent est donc un fléau célèbre. Puis il frappe la rivière et la rivière devient rouge sang. Alors la rivière devient sang. Le Nil était-il considéré comme un dieu en Égypte? Oui. L'Égypte est le dos du Nil. Donc, le Nil est détruit en termes de sang. Maintenant vous avez tous ces autres, les grenouilles, les moucherons, les mouches, la grêle, les sauterelles et tout. L'obscurité, pourquoi l'obscurité est-elle importante? Ra ou Re est le dieu soleil. Est-ce que le soleil? Dieu le grand dieu en Égypte. Donc ce que Dieu dit, c'est que je vais abattre le dieu soleil. Machine translated by Google. 22. Et il provoque les ténèbres. Enfin, le premier-né, je pense que le premier-né est un jugement sûr. Pharaon parce que Pharaon ne peut pas protéger son propre fils. Alors ce sont ceux-là que je veux que tu fasses. Savoir, le serpent, le sang, les ténèbres et le premier-né. Ils avaient d'autres dieux, le bétail. Dieu, celui que je voyais dans le Sinaï est Réesseur, Réesseur est un dieu vache. Or, ce modèle ici est le modèle des fléaux. Dieu fait une annonce. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais faire une plaie, et Dieu donne des instructions. Moïse, prends ton bâton, descends près de la rivière, et toi et Aaron descendez la pointe. Donc Dieu donne quelques instructions, Moïse descend au fleuve, frappe le fleuve, le rend rouge, et alors que font les magiciens? Les magiciens le reproduisent. Nous examinerons les magiciens dans un minute. J'ai toujours pensé que si les magiciens étaient si puissants, plutôt que de reproduire les la peste, il devrait faire quoi? Défaire les fléaux. Autrement dit, Moïse frappe le rivière pour devenir du sang. Les magiciens, s'il avait quelque chose dedans, il le rendrait à eau. Mais ils reproduisent les miracles, et c'est intéressant. Pharaon répond alors. Disant généralement, s'il vous plaît, arrêtez toutes ces mouches, empêchez toutes ces sauterelles de manger cet endroit. Dehors. Pharaon demande de l'aide. Ensuite, Moïse et Dieu répondent généralement par la grâce en reculant de la peste. Puis, après que Moïse et Dieu se soient retirés, le cœur de Pharaon s'endurcit. Une fois que son cœur s'est endurci, vous recommencez avec le prochain fléau. Voilà donc le cycle, pouvez-vous voir comment toutes les plaies se sont propagées à travers ce cycle, et le cœur de Pharaon s'endurcit et recommence au cycle suivant. C'est le cycle qui se passe dans le livre de l'Exode sur les 10 plaies. Les magiciens comme repoussoir 61, 1, 4, 6, 3, 12. Maintenant, les magiciens sont en réalité un repoussoir pour Moïse et donc les magiciens sont vraiment assez importants dans le récit. Initialement, les magiciens s'opposent à Moïse, ils sont donc un repoussoir à Moïse. Moïse fait un miracle, les magiciens le reproduisent. Donc dans un premier temps, ils s'opposent. Moïse et Aaron. Ils sont un repoussoir, donc il y a une opposition. Mais que se passe-t-il? Il est intéressant de noter que pendant la peste des moucherons, les magiciens égyptiens ne peuvent pas tirer. Ça s'éteint. Les magiciens égyptiens confessent, ceci est le doigt de Dieu. Donc ce que tu as c'est. Les magiciens traversent une transition. Ils s'opposèrent initialement à Moïse, mais maintenant, dans le fin, devenez un témoignage et des témoins de la puissance de Moïse et de Dieu à travers Moïse. Il. Machine translated by Google. 23. Prévenez Pharaon, ce ne sont plus seulement des tours de magie, c'est le doigt de Dieu. C'est donc un transition intéressante que traversent les magiciens. Voici une autre chose qui arrive pendant les épidémies. Il semble y avoir un séparation du pays de Goshen. Est-ce que quelqu'un se souvient quand la grêle est arrivée et que la grêle bombarde l'Égypte et détruit tout. À Goshen, c'est sympa. Dieu sépare son peuple au pays de Goshen et les plaies ne s'abattent que sur l'Égypte. Il y a cette séparation de Goshen, où vivent les Israélites, et fondamentalement les fléaux ne tombent pas sur eux. Dieu protège son peuple alors qu'il juge les autres. C'est une sorte de chose sympa. Pâques 63, 1, 3, 6, 9, 47. Maintenant, c'est la Pâque. La Pâque se déroule au chapitre 12. Laissez-moi juste traverser cela. Si jamais vous avez l'occasion d'assister à un service juif de Pessah, allez grec, c'est ça vaut vraiment le coup de voir un service de Pâques. Il y a trois choses impliquées dans la Pâque. Service. L'un d'eux est l'agneau. Que arrive-t-il à l'agneau? Il tue l'agneau, il fait couler le sang, et que font-ils du sang de l'agneau? Ils l'ont mis sur la porte. Cadres et à travers le linteau. Quand l'ange de la mort baisse les yeux et voit le sang. Que fait l'ange? Passe. C'est de là que vient le nom de Pâques. L'ange de la mort passe lorsqu'il voit le sang sur les encadrements de porte. Est-ce que quelqu'un? Tu te souviens, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. C'était un vieil hymne qui a raconté cet événement de Pâques consistant à voir le sang et à passer. Au fait, que faire? Qu'ils font avec l'agneau? Ils rôtissent l'agneau sur un feu ouvert et mangent l'agneau ce soir-là. Ils sont censés manger tout l'agneau en une nuit. L'agneau est une bonne viande. Alors ils mangent. L'agneau et le sang sont placés sur la porte, c'est ce qui arrive à l'agneau. Aujourd'hui, ils ne tuent pas les agneaux, mais à l'époque, ils le mettaient probablement dans un bol et utilisaient ensuite un tampon. Chose pour tamponner le sang autour de l'encadrement de la porte. Herbes amères, ils devaient manger les herbes amères pour leur rappeler l'esclavage amer. En Égypte. Que utilise-t-on aujourd'hui comme herbes amères? Quelqu'un est-il déjà allé à Pessah? Service. Est-ce que quelqu'un fait du réfort? Avez-vous essayé ça? Mon père aimait. Réfort. Tout ce que je peux dire, c'est que quand tu le manges, c'est comme si tu avais des poils dans le nez, ce n'est pas le cas. Machine translated by Google. 24. Je n'ai plus de cheveux. Cela brûle tout en vous. Il vous en faut seulement un peu, et en fait, si vous êtes intelligent, vous le sentirez à l'avance. L'odeur vous suffira à le savoir. Que tu ne manges pas ce truc. Certains mangent du réfort, mon père en mangeait. Carrément. Vous voulez goûter quelque chose d'amer, essayez le réfort. Est-ce que quelqu'un aime réfort? Il y a donc des gens qui aiment le réfort. Alors pour les herbes amères qu'ils mangent. Réfort maintenant pour tremper. Question d'un étudiant. Vos yeux commencent à pleurer. C'est presque comme les oignons, mais en pire. Le troisième est le pain sans levain. Pourquoi devait-il manger du pain sans levain? Cette Pâque. La fête commence, la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain a duré 7 jours. Dieu a dit que vous deviez quitter l'Égypte si vite que vous ne pourrez pas le faire. Avoir le temps de laisser lever le pain. Autrement dit, pour que le pain lève, il faut le laisser. Asseyez-vous et le levain travaille et le pain pousse. Il dit que tu vas devoir partir si vite. Tu n'auras pas le temps. Mangez du pain sans levain. Même aujourd'hui, si vous allez en Israël pendant la Pâque. D'ailleurs, le temps de la Pâque est Pâque pour nous en tant que chrétiens, c'est le moment où Jésus va mourir, le moment du Seigneur. Dîner et puis il va mourir. Ainsi, juste à l'approche de Pâque, c'est leur Pâque. Lorsque vous allez en Israël jusqu'à ce jour et vous faites la Pâque si vous entrez dans une épicerie, cela, c'était 1 centime pour une miche de pain. Je suis allé dans une épicerie en Israël, et tu choisis le du pain dans le commerce, il n'est pas emballé dans du papier, vous le récupérez et il est encore chaud. Et ce bien. Ceci est vraiment bon. C'est comme du pain fait maison. Nous l'avons ramené à la maison et l'avons mangé. C'est du bon pain. Maintenant, le problème est que, le jour de la Pâque, vous allez acheter votre pain, que est-ce que c'est? Le problème? Avez-vous déjà vu ce papier de boucherie blanc? Et tout d'un coup tu vas à la place du pain où se trouve ce merveilleux pain, et tout est recouvert de blanc. Du papier de boucherie et ils ne vous vendront pas de pain au levain. Cela veut dire que tu dois manger des craquelins. J'ai besoin de mon sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée, j'en mange tous les jours de ma vie et alors que est-ce que je fais? S'ils ne te donnent pas de pain au levain, tu vas dans la section arabe. Et j'achète le pain là-bas. L'autre chose que je devrais dire, c'est qu'ils font ces bagels pour environ 1 centime. Tu obtiens un bagel comme ça, c'est une miche de pain, c'est rond avec des graines de sésame. Machine translated by Google.
25. Dishes. J'en oublierai jamais mon dernier bagel sorti de la porte de Damas. J'y sors de la porte de Damas.
Et ce mec arabe vend ses bagels. Alors je lui achète ce bagel et ensuite je prends une bouchée et c'était un très bon bagel et je meurs de faim. Le seul problème, c'est quand je suis revenu manger une deuxième bouchée, j'ai regardé le bagel et il n'y a qu'une chose pire que voir une mouche dans ton bagel, et ça, c'est voir une moitié de mouche, je l'ai fait. Une demi-mouche là-bas, et j'avais déjà avalé, et c'était mon dernier bagel à partir de là, je n'en pouvais plus. On s'y habitue tellement dans cette culture où ils laissent la nourriture reposer. La nourriture est juste assise dehors et les mouches, on s'y habitue au bout d'un moment. Mais je n'ai jamais pu m'y habituer. Donc, bref, du pain sans levain, ils partent 7 jours avec du pain sans levain et c'est la fête de la Pâque qui donne le coup d'envoi de la fête des pains sans levain, 7 jours. Et les enfants? J'aime la façon dont les Juifs traitent leurs enfants lors de leur fête. Dans le chapitre 12.26 décrit le rôle des enfants. Dans beaucoup de nos églises, que faisons-nous avec des enfants? Devons-nous renvoyer les enfants et les sortir de là? Les enfants juifs. Participer. Que est-ce que les enfants aiment faire? poser des questions. Alors ici, il est dit, quand vos enfants demandez, que signifie cette cérémonie? Alors dis-leur que c'est la Pâque, un sacrifice au Seigneur qui a passé la maison des Israélites en Égypte. Alors ce qui se passe, ce sont les enfants sont invités et autorisés à poser des questions, puis les parents répondent aux questions des enfants. Des questions. Que est-ce que cela fait à la structure familiale? Est-ce que cela unit les familles? Les enfants participent au culte avec leurs parents en posant des questions. Ils veulent le faire de toute façon. Donc c'est beau avec les enfants et comment ils s'intègrent. Eux sont magnifiques. Pâques est la scène du Seigneur 69, 4-8-7-1-41. Et maintenant, qu'en est-il du repas du Seigneur? Jésus, la nuit même où il a été trahi, il prit du pain, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour toi. » Alors la scène du Seigneur est en fait la fête de Pâques avec l'agneau, mais cette fois, qui va être l'agneau? Jésus sera l'agneau pascal. Le pain est rompu. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous dans les églises à ce jour, lorsque vous communiez, vous le faites sans levain. Pain, basé sur la fête de Pâques. Que dit Jésus? Jésus pourrait mourir à tout moment. Machine translated by Google. 26. Mais quand choisit-il de mourir? Juste à la Pâque, parce que Jésus est le nouvel Exode. Comme Moïse les a délivrés de l'esclavage en Égypte, Jésus va maintenant les délivrer de l'esclavage du péché. Alors Jésus fait un nouvel Exode, et qui est Jésus? Dans 1 Corinthiens 5.7, Paul nous dit que Jésus est notre agneau pascal. Vous souvenez-vous de l'époque où Jésus était sur la croix et qu'il ne mourait pas assez vite? Que voulait-il lui faire pour qu'il meure plus vite? Ils vont lui casser les jambes. Parce que quand tu es sur une croix, tu t'asphyxies parce que tu ne peux pas respirer. S'il casse vos jambes, vous ne pouvez plus vous tenir debout. Au fait, était-il censé briser l'un des os de l'agneau pascal? Non. Les os de Jésus étaient-ils censés être cassés? Non. Tout comme cela a été prophétisé dans Ésaïe 53, le psaume 22, de merveilleux passages de la crucifixion de Jésus, les os de Jésus n'ont pas été brisés. Jésus est donc notre agneau pascal. Donc ça, tout le chemin vers la liberté, la sortie d'Égypte devient nôtre en Christ. Où Moïse a-t-il traversé la mer des roseaux? 71, 4-2-7-2-30. Voici maintenant une autre question qui se pose. Où Moïse a-t-il traversé la mer des roseaux? Maintenant, remarquez que je suis désagréable en disant, Ritsi. En hébreu, le terme est Yemsuf, qui signifie littéralement, mer des roseaux. Yem signifie, mer, suf signifie, roseau, donc Yem. Suf signifie, mer des roseaux. Cela ne signifie pas la mer rouge, mais la mer des roseaux. Alors la question est de quelle mer s'agit-il? Il y a donc deux suggestions principales, et puis j'ai eu ce type du Wisconsin qui m'envoyait des emails depuis environ 3 mois, me reprochant d'y aller en Arabie. Je vais vous montrer où, selon lui, la traversée de la mer des roseaux passait par l'Arabie. Il le pensait très fortement, je pense qu'il a tort, mais peu importe. Dieu comme guerrier 72, 3176, 08. Alors travaillons avec ces gars-là, mais avant de faire cela, permettez-moi d'aborder celui-ci. Ils vont traverser la mer des roseaux et vérifier cette déclaration de l'Écriture. Chapitre 14, verset 14, il est dit ceci, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez-vous debout. Ferme et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. Les Égyptiens vous voyez aujourd'hui, vous ne reverrez plus jamais. Le Seigneur se battra pour vous, il vous suffit de rester tranquille. Le Seigneur combattra pour vous. Dieu s'implique-t-il dans la guerre? Que signifie Exode 15.3? Machine translated by Google. 27. Dire. il est dit ceci, le Seigneur est un guerrier. Il chante après avoir traversé la mer et il chante pour louer Dieu et l'une des choses qu'il loue à Dieu est que, le Seigneur est un guerrier. Yahweh est son nom. Il a jeté les chars de Pharaon et son armée dans la mer. Le Seigneur est un guerrier. Ce que je dis, c'est que votre génération est toute paix, amour et paix, amour. Dieu est-il un guerrier? En fait, certains enfants étaient habillés aujourd'hui comme le un vieux truc des années 60. Dieu est-il considéré comme un guerrier? Est-ce l'un des titres de Dieu qu'il est un guerrier? C'est vraiment drôle, j'entends tous ces gens dire que la guerre n'est pas la solution. Parfois c'est guerre, la réponse. Des fois ça l'est. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour la paix, et il y a un le temps de la guerre. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut être très prudent dans ses études. Car nous sommes du genre à vivre en paix. Dans les milieux universitaires, défendons-nous la paix et amour. Dans le monde réel, il y a des gens en Afghanistan qui se battent et meurent en ce moment même. Jour probablement à cause de ce qui se passe dans le monde. J'ai dû lutter avec ça pour 7 mois quand mon fils était là-bas. Il est de retour depuis un bon moment. Fait. Il a encore dans sa tête des restes de choses qu'il a vues et dont il a parlé à ma femme et moi. À propos d'eux. Il dit, j'ai vu des choses que personne ne devrait voir de son vivant. Et ce que tu sais ce que ça fait de voir ton ami exploser en 1000 morceaux. Tu dois tirer son corps du mur, et vous dites que c'est comme du bœuf séché, mettez-le dans une boîte et priez Dieu pour que son les parents n'ouvrent pas la boîte. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Tout ce que je dis c'est que la guerre est vraiment, vraiment moche et mauvaise. Cependant, Dieu se présente comme un guerrier. Au fait, est-ce seulement Dieu, ou Jésus se présente-t-il également comme un guerrier? Vous dites bien que Jésus est amour et paix, tendez l'autre joue. Avez-vous déjà lu le livre de Révélation? Lisez Apocalypse 19. Un jour, Jésus revient également en tant que guerrier. Je ne fais que vous harceler à ce sujet. Il n'y a rien de mal à être en désaccord sur cette question. Dernier cours que nous avons eu. Un étudiant qui est un de mes amis, qui est pacifiste et qui me faisait face et c'est d'accord. Différentes personnes prônent des positions plus pacifistes, tandis que d'autres prônent davantage une guerre juste. Position. Je suis moi-même plutôt un partisan de la guerre juste. C'est normal d'être en désaccord là-dessus, c'est différent. Les gens ont des normes différentes. Où Moïse a-t-il traversé la mer des roseaux? 76, 0979, 15. Machine translated by Google. 28. Où Moïse a-t-il traversé la mer des roseaux? Les voici à Goshen, c'est le pays de Goshen où sont installés les Juifs. Maintenant, il y a 2 endroits où ils pourraient traverser le lac Bitter ou lac Timsa, ils pourraient traverser ici. Au fait, cela conviendrait-il à la mer de roseaux? Celles-ci sont moins salées que l'océan. L'océan est salé, les roseaux poussent-ils vraiment bien? Dans le sel? Non. Alors, quand il est écrit, mer de roseaux, certaines personnes pensent que c'était celle-ci, car c'est. Il y a moins de sel et il y a des roseaux sur ces lacs. Au fait, ces lacs sont-ils assez grands? Noyer une armée. Eh bien, dites-vous, non, parce qu'il n'a qu'un mètre de profondeur, mais c'est. Les lacs sont assez grands pour noyer une armée entière. Ces lacs sont grands, alors certaines personnes suggèrent. Ils allèrent traverser les lacs amers puis descendirent au Sinaï. C'est un point de vue, le lac Zamer ou lac Timsa. L'autre façon est de traverser la partie supérieure de la mer Rouge. Ce serait la mer Rouge. Traversés, ils sont descendus ici et voici la mer Rouge et le bras du golfe de Suez du mer Rouge. Ensuite, ils ont traversé ici et sont descendus ici jusqu'au mont Sinaï. C'est donc sa deuxième vue. Maintenant, une troisième vision promue par ce gars du Wisconsin dit que Moïse, venu du pays de Goshen. À propos, pourquoi Moïse n'est-il pas simplement monté dans le pays de Canaan? Ce serait beaucoup plus court de procéder ainsi. Dieu les emmène dans le désert, ça va être la lune de miel de Dieu avec Israël dans le désert, où il est seul. Avec eux dans le désert. L'autre chose qu'il dit explicitement au chapitre 13, il avait peur. Parce que qui était ici? Les Philistins étaient ici et il a dit que si je les prenais directement en Canaan, ils vont se heurter aux Philistins, faire demi-tour et revenir en courant. Disant que je ne vais pas me battre avec les Philistins parce que les Philistins étaient méchants. Camarades, il dit, je ne vais pas vous emmener directement en guerre contre les Philistins parce que vous ne pourrez pas le gérer. Alors il les emmène dans le désert. Maintenant, la troisième vision est que Moïse les emmène tout au long du Sinaï et Pharaon les poursuit tout au long du désert et Moïse traverse ici, à la mer Rouge, au golfe d'Aqaba. Ils ont en fait trouvé une roue de char ici, alors ce type a fait une cas où à cause de la roue du char, c'est ici que Moïse a traversé puis est descendu au mont Sinaï en Arabie. Machine translated by Google. 29. Maintenant, où est le mont Sinaï? Le mont Sinaï est ici. Le mont Sinaï est ici. Mont Sinaï est là. Le mont Sinaï est ici. Le mont Sinaï est ici. Le mont Sinaï est ici, 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 ici. Et ici. Où est le mont Sinaï? Il existe en réalité plus de 20 sites pour le mont Sinaï. Lorsque Moïse était au sommet du mont Sinaï, a-t-il signé et dit, j'étais ici? Non. Alors? Savons-nous où se trouve le mont Sinaï? Non. Il y a donc plus de 20 sites pour le mont Sinaï. Et personne ne sait vraiment où il se trouve. Au fait, si jamais vous en avez l'occasion, allez sur celui-ci. Au monastère Sainte-Catherine ici. Ça vaut le détour là-bas, c'est juste un merveilleux ancien monastère. Il est là depuis les années 300 après J.C. et il y a de merveilleux moines là-bas. Là et juste quelques artefacts vraiment sympas. Je le recommande. Saba 79, 1583, 28. Maintenant, le sabbat, nous avons environ trois autres choses à faire ici, le sabbat. Pourquoi? Respectons-nous 9 des 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas, nous révérons tous les commandements, mais comment se fait-il que nous ne le fassions pas? Commandement d'observer le sabbat. Vous dites que et ce que cela a à voir avec les routes du Wisconsin. J'ai grandi à New York, et à New York, il y a des nids de poules qui sont si gros qu'ils vont manger votre voiture. En fait, la plupart des routes du Massachusetts ont des nids de poules. New York, les nids de poules ont des routes. Vous entrez dans le Wisconsin même si les routes sont comme vert. Je demande quelle est la différence. Cela dépend en partie de la manière dont le Wisconsin construit ses routes. Ils évacuent l'eau d'eux. En dessous, ils mettent un tas de pierres concassées pour que l'eau puisse s'échapper, et ils font leur route avec une bonne base. Cette bonne base fait en sorte que les routes durent. Quoi? Je vais vous suggérer que le principe du sabbat est une bonne base sur laquelle fonder votre vie. Maintenant, je parle ici de manière hypocrite, et c'est une leçon autant pour moi-même que pour n'importe qui, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire de sabbat. J'ai quelques amis qui sont très orientés vers le sabbat et d'autres amis qui travaillent 7 jours d'affilée. Une des choses concernant le sabbat est que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait et que vous réfléchissez à la vie. Que se passe-t-il lorsque vous traversez la vie en camion, juste courir aussi vite que possible et ne jamais te retourner? Pouvez-vous donner un sens à la vie? Avez-vous besoin de vous retourner et de prendre le temps de rassembler la vie? Se souvenir de son passé. Machine translated by Google. 30. est nécessaire pour que le présent donne un sens à la vie. Donc ce souvenir est vraiment principe important. Le rythme, vous connaissez le rythme. Que se passe-t-il lorsque vous devez rédiger un du papier pour la classe? Vous restez éveillé toute la nuit à écrire le journal. Tu violes le rythme jour-nuit. En restant éveillé toute la nuit. Que se passe-t-il le lendemain? Le lendemain est-il bon ou mauvais? Quoi? Se passe-t-il si vous devez rester éveillé deux nuits de suite? Est-ce que c'est comme un meurtre? Ne fais pas ça, c'est juste vraiment mauvais. En d'autres termes, y a-t-il un certain cycle quotidien que vous devez observer? En fait, en tant qu'étudiant, je vous dis simplement d'essayer de dormir, c'est vraiment important. Il y a des cycles quotidiens, y a-t-il aussi des cycles hebdomadaires? Que se passe-t-il si vous violez le cycle hebdomadaire? Je travaillais avec un gars et il travaillait 7 jours sur 7, il le ferait conduire un camion et il irait à l'université, c'était un de mes étudiants et je le voyais à l'école. Ensuite, le week-end, il conduisait des camions et il travaillait 30 heures par jour. Fin de semaine. Au bout d'un moment, il allait à l'école, travaillait, puis se rendait au travail. Il n'a jamais pris de cassé. Question, après environ 3 mois de travail, savait-il quelle était la fin? Il a perdu tout sens et tout sens à la vie. Il était prêt à tout abandonner parce que il n'arrivait tout simplement pas à comprendre les choses. Alors soyez prudent à ce sujet. Le renoncement au travail est votre maître. Le travail n'est pas notre maître, et donc le sabbat brise ce cycle de travail et nous permet de renoncer au travail en tant que maître. Rafraîchissement, avez-vous parfois besoin de faire une pause le jour du sabbat? Mes parents. Quand j'étais grand, je me reposais toujours le dimanche. Il y a quelque chose à dire à ce sujet. En voici un autre, modèle. Dieu lui-même s'est-il reposé le jour du sabbat? Est-ce que Dieu se reposait parce qu'il était fatigué? Non, Dieu s'est reposé le jour du sabbat, il a regardé tout ce qu'il avait fait et j'ai vu que c'était très bon, Tov Meod. Alors Dieu s'est reposé et Dieu est notre modèle. Donc il y a quelque chose à dire là-dessus, en plus du fait que c'est l'un des 10 commandements. Avons-nous besoin de temps pour réévaluer et repenser les choses? Permettez-moi de revenir ici. Alors ces sont essentiellement la raison pour laquelle on observe le sabbat. Au fait, le Nouveau Testament dit-il que nous devons obéir au sabbat. Paul dans Romains dit que certaines personnes observent le sabbat et d'autres non et considèrent. Machine translated by Google. 31. Tous les jours pareil. Donc ce que je dis, c'est que vous pouvez prendre un engagement pour vous-même, mais faites attention à ne pas l'imposer à d'autres personnes, à ceux qui peuvent avoir d'autres engagements. Tabernacle 83, 2989, 58. Que savons-nous du tabernacle? Il s'agit d'un verset majeur, alors demandez-leur. Fais-moi un sanctuaire et j'habiterai parmi eux. J'habiterai parmi eux. Quel nom de Dieu cela déclenche-t-il dans votre tête? Emmanuel. Que est-ce qu'Emmanuel veut dire? Dieu avec nous. J'habiterai parmi eux. Israël est dans le désert et où sont les Israélites vivant dans le désert? Ils vivent sous des tentes. Si Dieu est avec les Israélites, le désert, où habite Dieu? Dans une tente. Les Israélites vivent sous des tentes dans le désert. Donc Dieu vit dans une tente avec eux. Certaines personnes qui sont mes amis disent que le tabernacle a cette notion du Saint des Saints avec les chérubins, que c'est le paradis sur terre. En d'autres termes, le tabernacle est comme un petit coin de paradis sur terre à cause du chérubin. D'autres de mes amis disent que le tabernacle symbolise le retour au jardin d'Éden. Maintenant, je n'ai jamais réussi à suivre ces deux suggestions. Ces suggestions sont faites par certaines personnes que je respecte beaucoup, mais elles n'ont jamais. Cela m'a semblé très logique. Ce qui me semble plus logique, c'est que le tabernacle est une tente. Dieu tente avec son peuple. Cela semble avoir plus de sens que ce « paradis sur terre », mais certaines personnes iront dans cette direction. Donc pour moi, c'est plutôt Dieu qui tente avec son peuple. Maintenant, je vais afficher un dessin du tabernacle. Ceci sur votre PowerPoint que vous pouvez télécharger. Voici un dessin du tabernacle, marchons un peu à travers cela. Tout d'abord, et je vais passer de l'autre côté ici. Prenons le taille de cette chose. L'ensemble du tabernacle mesure 150 pieds de long sur 75 pieds de large. Quelle est la durée? Que? Combien de mètres? 150 pieds, ça fait combien de mètres? 50 mètres. Que est-ce que tu fais 50 yards? Tu sais assez bien. C'est comme la moitié d'un terrain de football. Et ce énorme. Et ce aussi large qu'un terrain de football. Voilà le noyau externe. Le tabernacle intérieur lui-même mesure 45 pieds sur 15 pieds. Est-ce que cela pourrait convenir à cette pièce? D'ici jusqu'au mur du fond, est-ce qu'il y a environ 45 étages 15 pieds? Cette pièce est plus large que 15 pieds. Le tabernacle pourrait donc tenir ici. Tout ce que je dis, c'est si énorme. Non, ce n'est pas Machine Translated by Google. 32. Quand vous entrez, de quelle direction venez-vous? L'est, ce qui signifie. Vous tournez le dos au soleil levant. Le soleil est-il un problème pour les dieux dans cette culture? Maintenant, où sont les tribus d'Israël? Il y avait 3 tribus de ce côté, 3 tribus de ce côté, 3 tribus de ce côté, et 3 tribus de ce côté. Les tribus campaient autour de cela. Là, il y avait 3 tribus de chaque côté. Quand vous venez de l'Est et que vous déposez votre sacrifice, qui ramasse votre sacrifice ici et tue l'animal? Les prêtres. Ainsi les prêtres opèrent-ils dans ici? Vous amenez ici votre animal, votre mouton ou votre chèvre, le prêtre le prend alors et le brûle sur cet autel des Ralacosts. Cela fait environ 7,5 pieds de long et il brûle les animaux ici. Au fait, quand vous tuez un animal, est-ce qu'il va y avoir du sang? Alors ceci est la cuve. Une cuve ressemble à un bain d'oiseau, c'est effectivement le cas. Il y a de l'eau ici. Pourquoi? Les prêtres auraient-ils besoin d'eau à ce stade? Ils ont été gâchés par le sang, alors ils lavaient ici. C'est ici la cuve et l'autel des Ralacosts. Maintenant, quand vous entrez ici, vous avez ceci, je suis désolé, c'est un dessin épouvantable. C'est ce que le peuple juif appelle une menorah. Une menorah est un bougeoir à 7 branches. Avez-vous déjà vu ces juifs aux 7 branches? C'est un chandelier. Pourquoi faire? As-tu besoin d'un chandelier à l'intérieur de cette tente? Il fait sombre là-dedans. C'est la menorah, là. Chandelier. C'est la table des pains de proposition ici. C'est comme une table basse. Sur ce café. La table et le pain de proposition, 12 miches de pain. Combien y a-t-il de tribus? 12 tribus, 12 miches de pain. C'est l'autel de l'encens. L'autel de l'encens mesure 6 pouces sur 6 pouces. Probablement environ 3 pieds de haut. Sur ce, il brûle de l'encens spécial que Dieu a dit qu'il devait être mélangé d'une manière spéciale. Lorsque vous êtes entré près du tabernacle, sauriez-vous que vous étiez-vous en présence de Dieu par le parfum que vous avez senti? Faites du parfum ou de l'odeur et la présence va de pair. Au fait, peux-tu dire que tu es parfois en présence de quelqu'un? Les choses sentent. Je l'exprime mal, mais en d'autres termes, l'odeur déclenche telle la présence. Oui. Donc tu as le parfum, devrais-je dire. Maintenant, ici, il y a un rideau qui traverse ici. C'est le Saint des Saints. Le Saint des Saints signifie le lieu le plus saint. Il y a là l'Arche de l'Alliance. Le Machine Translated by Google. 33. L'arche est à peu près aussi grande que cette grande, au sommet de l'arche se trouvent les chérubins. D'où vient le sang? Être mis. Une fois par an, le prêtre y va, quel jour le prêtre met-il le sang? Entre les chérubins. Le jour des expiations, le jour le plus sacré, Yom Kippour. Si je a dit Yom Kippour, cela vous dit quelque chose? À Yom Kippour, le jour des expiations, il apportait le sang et mettait-le là. Voilà donc l'arche. Il porte l'arche sur leur épaule lorsqu'il marche. V. Trois choses dans l'arche 89, 5, 9, 9, 1, 28. Il y avait trois choses dans l'arche. Cela devrait ressembler à un choix multiple. Question à vous. Les 10 commandements sont dans l'arche. Le bâton naissant d'Aaron, Aaron était être le leader depuis que sa verge a bourgeonné. Ils prirent le bâton naissant d'Aaron et le mirent dans le arche. Ensuite, ils prirent un pot de manne, ils en rassemblèrent de la manne et l'y mirent par. Mais que signifie le mot manne? Voyez-vous qu'il y a une sorte de jeu de mots ici avec manne. Cela signifie que et ce que c'est. Ils ne savaient pas ce que c'était, alors ils ont appelé c'est que et ce que c'est. Ces trois choses se trouvent donc dans l'Arche de l'Alliance. Plus tard dans l'histoire d'Israël, ces deux choses auront disparu, et la seule chose qui en restera sera soyez les 10 commandements. Ainsi, le pot de manne et le bâton d'Aaron furent perdus tandis que les 10. Les commandements sont la seule chose qui reste dans l'Arche. Voilà donc le tabernacle. Nous avons un test jeudi. Il me restait encore une diapositive à faire. Cette diapositive ici ne sera pas sur l'examen. Alors ne vous inquiétez pas de cette question sur l'avortement. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans son ouvrage Histoire, littérature et théologie de l'Ancien Testament. Cours, conférence numéro 12, Les plaies et le tabernacle dans le livre de l'Exode. Transcrit par Nicole Turc. Brut édité par Ted Hildebrandt.